Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux, des reportages de terrain et des analyses sur tous les continents. Et nous allons beaucoup parler aujourd'hui encore, mercredi 3 juin, de la campagne électorale en France. On connaît maintenant tous les candidats pour le second tour. Il y a eu 221 désistements pour ne laisser qu'un seul candidat face à l'extrême droite pour faire barrage au RN. Quelles conséquences sur les rapports de force? Les partis dits républicains peuvent-ils encore priver le Rassemblement national d'une majorité absolue dimanche? Nous poserons ces questions à notre invité dans quelques minutes. En attendant, l'inquiétude grandit toujours à mesure que l'élection approche, et notamment chez les binationaux qui redoutent les projets du RN.
Je trouve ça hallucinant. Cette expression de préférence nationale, pour moi, c'est une expression fascisante.
Reportage à écouter dans un quart d'heure. Cette semaine, il y a aussi des élections anticipées au Royaume-Uni et les conservateurs s'apprêtent à vivre une défaite massive au profit des travaillistes qui devraient revenir aux affaires après 14 années de pouvoir conservateur. Le Labour aura la lourde tâche de relever un pays affaibli par le Brexit. Nous irons à Londres dans une demi-heure. Au sommaire également, un entretien exclusif avec le Premier ministre haïtien Gary Conny en visite à Washington. Le chef du gouvernement de transition s'est exprimé au micro de notre correspondant. Il a parlé de l'insécurité et des violences, bien sûr, de la mission multinationale, et il a tenu à envoyer un message d'espoir pour Haïti.
Il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent.
Gary Conny, Premier ministre haïtien, invité exceptionnel de RFI dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques à 13h, temps universel. On parlera aussi de sport, de cyclisme, cinquième étape du Tour de France aujourd'hui, après une étape de montagne survolée par Pogacar hier. Et puis nous ferons le bilan des huitièmes de finale de l'Euro avec notre envoyé spécial en Allemagne. Vous avez le programme, RFI Midi, c'est parti, bienvenue. Et on commence comme chaque jour par vous résumer l'essentiel de l'actualité du jour avant de développer tous les sujets dont je viens de vous parler. L'essentiel en 5 minutes. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec la France d'abord, à 4 jours du second tour des législatives.
Oui, les candidats ont tous remis leur dossier en préfecture et il n'y aura pas de nouveaux désistements. Au total, la gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel plus de 80. Là où le Rassemblement national a de bonnes chances de l'emporter, l'objectif étant d'empêcher à tout prix l'extrême droite de décrocher la majorité absolue des sièges à l'Assemblée. Pour Gabriel Attal, à l'issue de ces élections, le pouvoir sera soit aux mains de l'extrême droite, soit au Parlement. Le Premier ministre dit se battre pour le second scénario. En banlieue nord de Paris, de jeunes salariés sont encore sous le choc du score obtenu au premier tour par le Rassemblement national et ses alliés. Mais avec plus de 40%, l'abstention a été très élevée dans la ville du Bourget, où Sylvie Coffi a recueilli ses paroles d'électeurs.
Cali, chargée de clientèle, a envie de s'exprimer. Sur son ordinateur, elle ne quitte plus des yeux les résultats de ses dernières élections.
J'ai aussi regardé la carte de la France avec les votes. C'est vraiment ce qui m'a mis une claque parce que ça permet de visualiser. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais quand je me dis qu'un Français sur deux a voté RN, quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il y en a forcément un qui me regarde de travers.
Pourquoi ?
Parce que je pense qu'à mon visage, ça se voit que je suis d'origine étrangère, donc voilà. Je suis à l'aise dans ma peau en soi, mais vu les scores, ça m'est pas très à l'aise.
Vu les scores, elle envisage même de quitter la France et elle n'est pas la seule.
Je me sens personnellement touché puisque de par mes origines, de par ma religion, aujourd'hui on sait qu'il y a une vraie discrimination, c'est de l'islamophobie. Hein. Et puis ce repli sur soi, il pèse dans le climat social actuel, même dans le climat des affaires, on le sent. Alors moi je suis originaire du Mali. Je suis prêt à partir. Quelques années auparavant, peut-être que je n'aurais pas un discours aussi tranché, mais si clairement on ne veut pas de moi, je me débrouillerai.
Ce dimanche, ils iront tous voter pour faire barrage au Rassemblement national.
Un reportage au Bourget de Sylvie Coffi.
Toujours en France, la mise en examen de Benoît Jacquot pour viol est requise aujourd'hui par le parquet.
Oui, le parquet qui a requis la mise en examen du cinéaste pour viol sur les actrices Julia Roy et Isilde Le Lebesco. Benoît Jacquot était en garde à vue depuis lundi à la brigade de protection des mineurs, tout comme Jacques Douoyon, autre cinéaste français. Ce dernier a lui vu sa garde à vue levée hier soir pour raison médicale.
Vous nous le disiez Gilles, les Français votent donc dimanche et pour les Britanniques, ce sera demain.
Oui, une victoire des travaillistes semble acquise à ces législatives. Les Britanniques aspirent au changement après 14 ans de gouvernement conservateur. En cet ultime jour de campagne, dans quel état d'esprit se trouvent les électeurs? Notre correspondante Emeline Vin en a rencontré quelques-uns.
Même s'il pleut, ce jeudi, Yolanda ira voter pour la première fois. Et la jeune femme se réjouit de participer à l'exercice démocratique.
J'espère vraiment contribuer au changement. On pouvait s'attendre à tout ce qui a été dit et on dirait que les partis font seulement campagne les uns contre les autres. Cependant, ça fait réfléchir sur l'environnement notamment.
Tout le monde ne partage pas son enthousiasme. Peter a regardé tous les débats.
J'en ai assez, de tous. Les débats, ce n'était que du blabla. Je ne voterai pour personne. À mes yeux, aucun n'a les capacités pour diriger le pays.
Peu d'idées ont émergé dans la campagne. Les échanges ont surtout porté sur les personnalités et les bilans. Georges, assistant d'éducation, s'est intéressé comme il a pu.
Dans toutes les campagnes, il y a des choses intéressantes, surtout les polémiques et les coups bas. Moi, ça m'a diverti. Je sais que ce n'est pas ce à quoi on est censé s'intéresser, mais le reste n'est pas aussi amusant.
Un scandale de paris truqués a touché une dizaine de candidats travaillistes comme conservateurs et pourrait constituer l'événement le plus inattendu dans une campagne prévisible. Emeline Vin, Londres.
En bref, à présent, aux États-Unis, le camp démocrate est très ébranlé par le débat calamiteux de jeudi dernier, lors duquel Joe Biden, 81 ans, a perdu pied face à son rival républicain Donald Trump. Les poids lourds et parlementaires démocrates commencent à s'interroger publiquement sur sa capacité à se représenter le 5 novembre. Je l'appelle respectueusement à renoncer, a écrit hier le Texan Lloyd Doggett. Ce parlementaire démocrate est le premier à demander publiquement que le président jette l'éponge. Enfin, au Kenya, pays secoué depuis deux semaines par une vague de contestation. La police annonce avoir arrêté plus de 270 personnes, la plupart dans la région de la capitale Nairobi. Elles sont accusées d'avoir commis des actes criminels, notamment des pillages lors des rassemblements anti-gouvernementaux. Quant au bilan en vies humaines, il s'élève à au moins 39 morts et plus de 360 blessés.
Merci Gilles Moreau. On va parler, nous, de l'actualité politique en France maintenant et de ce qui était le principal sujet de ce second tour des législatives, les désistements et le barrage au Rassemblement national.
RFI. La France à midi.
On connaît donc depuis hier soir tous les candidats et malgré les appels répétés à gauche à des désistements, des appels plus flous au centre et à droite, il reste 92 circonscriptions dans lesquelles il y aura quand même 3 candidats, voire 4. Bonjour Aurélien Devernois.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Si certaines de ces triangulaires et quadrangulaires ne devraient finalement pas réserver de surprises, pour un certain nombre d'entre elles quand même, c'est l'incertitude totale qui règne quant à l'identité du ou de la future députée.
Oui, notamment dans les 9 circonscriptions où le RN est en tête et où il n'y a pas eu de désistement. Dans la 14e des Bouches-du-Rhône, par exemple, c'est Aix-en-Provence, la macroniste Anne-Laurence Petel est persuadée de pouvoir renverser la vapeur en étant certes arrivée 3e, mais à moins de 3 points du candidat RN Géraud Verny et pour la plus grande fureur du socialiste Jean-David Ciot, qui est 2e. Dans la Vienne, à Poitiers, la députée sortante écologiste Lisa Bellouco est également menacée de perdre son siège au profit de l'extrême droite, sa rivale issue du parti Horizon de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ayant refusé de se retirer alors qu'à Besançon, dans le Doubs, c'est le sortant Modem Laurent Croizier qui pourrait perdre en raison du maintien de sa rivale insoumise.
Alors en fin de compte, Aurélien, combien de circonscriptions restent dans le flou aujourd'hui?
Alors si on met de côté les triangulaires comprenant des candidats Les Républicains qui ont refusé le principe du barrage au RN, une trentaine des 92 circonscriptions concernées peuvent basculer d'un parti à un autre, probablement à quelques centaines de voix près, dont une vingtaine où le Rassemblement National pourrait tirer profit de la bataille entre le Nouveau Front Populaire et l'Alliance Présidentielle. Des sièges qui pourraient être cruciaux pour le RN afin d'atteindre son objectif de majorité absolue. Dans l'autre sens, beaucoup de ces triangulaires devraient aussi permettre à des candidats du camp présidentiel ou du NFP d'être élus plus tranquillement que dans un duel avec le RN, où le report de voix est par nature très aléatoire, à l'image de l'ancien président socialiste François Hollande, sans doute satisfait au fond d'avoir vu le député de droite sortant se maintenir alors que lui-même est talonné par l'extrême droite.
Aurélien de Vernoy, voilà donc 221 désistements pour faire barrage au RN. L'incertitude encore dans un certain nombre de circonscriptions. 221 désistements, c'est plus que ce que laissaient entendre certains discours dimanche soir. Notre invité va nous aider maintenant à mieux comprendre les effets possibles sur l'issue du vote dimanche. Bonjour Frédéric Michaud.
Bonjour.
Directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, vous avez écrit le livre « Le gouffre démocratique, les gouvernements et l'opinion » qui est paru aux éditions du CERF il y a quelques mois. Qu'est-ce que cette nouvelle donne électorale, ces désistements, change aux prévisions de vote ?
Ça change énormément de choses. D'abord parce qu'une triangulaire, c'est beaucoup plus imprévisible qu'un duel. C'est beaucoup plus facile à la fois pour l'électeur de se positionner quand il a seulement deux choix possibles que quand il en a trois. Et puis, du point de vue des instituts de sondage, ça clarifie l'offre électorale et donc ça facilite les prévisions électorales.
Donc j'en déduis que vous avez une idée plus claire de ce qui peut se passer dimanche. Est-ce que le Rassemblement national peut encore obtenir une majorité absolue ?
Alors, on est en train, en ce moment même, de mesurer les intentions de vote. On attendait la validation officielle des candidatures pour le second tour qui est intervenue hier soir en fin de journée à 18h. Donc là, les intentions de vote sont en cours de réalisation. On fera des prévisions à partir de demain. Mais on a déjà une idée du positionnement des électeurs dans les différentes configurations. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que le Front républicain, donc cette stratégie de désistement qui vise à bloquer le Rassemblement national, devrait avoir des effets au plan électoral et devrait bloquer toute une série de députés du Rassemblement national, en tout cas interdire leur élection. Donc on peut faire l'hypothèse que le nombre de députés dans la future assemblée dimanche, le nombre de députés du Rassemblement national sera très inférieur à celui qu'il aurait pu être si ces désistements n'avaient pas eu lieu.
Ça veut dire que l'extrême droite inquiète encore, que le Front républicain existe encore, parce qu'on a pu en douter quand même dimanche soir et au tout début de la semaine.
Oui, alors on sait quand on regarde l'histoire électorale française que le Front républicain marche de moins en moins bien. C'est évident au second tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac avait été réélu avec un score extrêmement élevé de 82%. Emmanuel Macron, 15 ans plus tard, avait été lui aussi élu, mais avec un score beaucoup plus faible. Et puis en 2022, le Front républicain avait encore permis à Emmanuel Macron d'être réélu à la présidence de la République, mais là aussi avec une efficacité plus faible. Donc d'élection en élection, le Front républicain s'émousse. Mais tout de même, jusqu'à présent, il est parvenu à remplir peu ou prou les objectifs qui lui étaient affectés. Alors, il y a eu des difficultés à mettre en œuvre ce Front républicain, mais le fait est que le nombre de désistements est considérable. Le nombre de triangulaires a été divisé par trois. Le nombre de duels devient très élevé. Donc les appareils politiques ont fait en sorte de mettre toutes les chances de leur côté pour battre le Rassemblement national.
Là, on parle des appareils politiques, comme vous le disiez à l'instant. Et au niveau des électeurs, qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que, selon vous, les électeurs du nouveau Front populaire, ce qui avait pu être le cas au moment de la NUPES il y a deux ans, et d'Emmanuel Macron, peuvent, là aussi, faire barrage au Rassemblement national, comme ils l'avaient fait en 2022 ?
Oui, alors on voit bien aussi, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les appareils politiques n'ont pas adopté tous la même stratégie. La stratégie de désistement était très claire à gauche. Les électeurs du Front populaire, quand ils seront opposés face au Rassemblement national, voteront très clairement pour leur candidat, et majoritairement, ils voteront pour le candidat de la majorité présidentielle quand celui-ci sera opposé au Rassemblement national. Donc, tant dans les appareils politiques qui constituent la coalition de gauche que dans l'électorat de gauche, il y a une adhésion au principe du Front républicain.
Et du côté de la mouvance présidentielle ?
Ah voilà, c'est du côté des électeurs de la majorité présidentielle, c'est un petit peu plus mitigé. Alors ça dépend des configurations. Hein. Quand un candidat du nouveau Front populaire est opposé à un candidat du Rassemblement national, là, pour l'instant on a une majorité d'électeurs de la majorité présidentielle qui ne prennent pas position et qui choisissent soit de s'abstenir, soit de voter blanc ou nul. On a un quart qui voterait pour le nouveau Front populaire. Il n'y a pas seulement les électeurs de la majorité présidentielle qui sont embêtés par cette stratégie. Il y a aussi ceux des Républicains. Et les Républicains, quand ils doivent choisir entre un candidat du nouveau Front populaire ou un candidat du Rassemblement national, la majeure partie d'entre eux, 40%, choisirait elle aussi de s'abstenir. Et puis, on aurait un gros tiers qui voterait pour le Rassemblement national et un quart qui voterait pour le nouveau Front populaire. Donc, on voit bien que la clé du second tour, elle se situe justement dans le comportement
Des électeurs avec là aussi un changement. Vous nous disiez un quart des électeurs de la mouvance présidentielle qui voteraient pour le nouveau Front populaire. C'est moins qu'il y a deux ans ?
Alors c'est moins qu'il y a deux ans, mais ça c'est ce que nous avons mesuré au lendemain du premier tour. Là, il va y avoir d'abord les effets de ces désistements. Et puis ensuite, il y a cette campagne d'entre-deux tours, il reste encore 3 jours de campagne, qui justement pour les partis qui veulent bloquer le Rassemblement national, va servir à activer leurs électeurs et à les inciter à se mobiliser contre le Rassemblement national, c'est-à-dire à sortir de leur intention soit de s'abstenir, soit de voter blanc ou nul, pour faire barrage au Rassemblement national. Et ça, nous verrons si les électeurs suivent ces consignes des partis classiques de gouvernement.
Et ça, qu'est-ce que ça pourrait avoir ? Je comprends qu'on n'a pas encore toutes les données. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur la gauche et le nombre de sièges que pourrait obtenir le nouveau Front populaire dimanche ?
Non, pour l'instant, c'est extrêmement difficile de le dire. Nos modèles de prévision, justement, intègrent tous ces désistements et les intentions de vote. C'est d'autant plus difficile que l'électeur lui-même vient seulement d'intégrer ces informations et est en train d'élaborer sa décision électorale. Nous y verrons sans doute beaucoup plus clair dans les 48 heures quand nous aurons les premiers retours de nos intentions de vote.
Merci beaucoup Frédéric Michaud d'avoir été en ligne
Merci
avec
à vous.
Nous. Directeur général adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, je rappelle aussi le titre de votre livre, Le gouffre démocratique, les gouvernements et l'opinion, qui a été publié au mois de mars aux éditions du Cerf. La possibilité de voir l'extrême droite arriver au pouvoir ou obtenir une très très large majorité inquiète beaucoup en France, et notamment les personnes qui disposent d'une double nationalité, française et étrangère, car Jordan Bardella a fait savoir qu'il comptait exclure les binationaux des postes jugés sensibles. Alors, il a précisé ensuite, face au tollé général, que cela ne concernerait que quelques dizaines de postes, mais le mal est fait et de très nombreux binationaux ont peur pour leur avenir. Ils se sont confiés à notre reporter Pierre-Olivier.
Abdoulaye Kanté est brigadier chef dans la police nationale et franco-malien.
Je me sens tout aussi français que malien. Pour moi, c'est comme un peu, est-ce qu'on vous demande de choisir entre votre père et votre mère ? Pour moi, c'est impossible.
Selon lui, les postes sensibles, notamment dans la sécurité, font déjà l'objet de contrôles.
Il y a environ plus de 3 millions de binationaux en France qui ne posent quasi aucun problème dans ce pays. Mais quand on voit qu'il y a cette forme de doute, même si a priori ça concernerait une dizaine de postes, on a ce qu'on appelle le criblage, donc des enquêtes de moralité qui sont faites sur des personnes qui pourraient poser un problème. Moi je pense que quand il y a ce genre d'idée qui est diffusée, je pense qu'il faut faire très attention de ne pas amalgamer en fait. Vous avez des gens qui ont la France chevillée au corps, mais aussi ils ont une deuxième patrie. Et au contraire, le fait d'avoir, on va dire, une double nationalité, c'est une forme de richesse.
Aujourd'hui, Abdoulaye Kanté dit ne pas se sentir menacé par des restrictions qui concerneraient les binationaux. Ce n'est pas le cas d'Hussein Tar, qui enseigne en France, né en Irak, il a été naturalisé il y a 3 ans.
Je suis inquiet, je suis très inquiet. Ce projet de Rassemblement National nous dit, ne rêvez pas trop, vous n'êtes pas français. Malgré le fait que vous avez cette nationalité, eh ben, vous n'avez pas le même droit que les Français. C'est-à-dire, pour moi, ce projet ne vise pas les doubles nationaux, vise surtout les étrangers. J'arrive pas à imaginer que ça puisse arriver, c'est tellement gros pour moi.
Georges Guibréal est né en Égypte.
C'était mon rêve, comme j'étais petit, prendre un café à Montmartre.
Il a obtenu la nationalité française il y a 5 ans, travaille dans l'hôtellerie et refuse de se sentir menacé en tant que binational.
Ça m'a fait peur, mais pas dans l'angoisse que si la Rassemblement National était arrivée, demain je vais prendre l'avion. Mais non, ça ne marchait pas comme ça en fait. Il y a des lois, il faut respecter. Je suis bien intégré, je travaille, je paye les impôts. Alors pourquoi ça m'a fait peur ?
Pourtant, la cinéaste franco-iranienne Sepideh Farsi redoute qu'en s'attaquant aux binationaux, le RN ouvre la boîte de Pandore.
Regardez, en Iran, par exemple, les femmes ne peuvent pas avoir un certain nombre de postes. Ça s'est fait en 79, et ils ont changé la constitution. Alors au début, ça avait l'air pas grave, mais si, c'est extrêmement grave. Et il ne faut même pas ouvrir la porte, et c'est extrêmement dangereux. Je trouve ça hallucinant. Cette expression de préférence nationale, pour moi, c'est une expression fascisante.
Interviewée mardi matin sur France Inter, Marine Le Pen a de son côté rappelé que le nombre de binationaux concernés serait tout à fait microscopique.
Reportage de Pierre Olivier. Il est 13h21 à Paris. C'est l'heure de notre question d'environnement. Cette question aujourd'hui, faut-il encore craindre les sacs plastiques ? On se pose cette question, Igor Strauss, parce que la France fait partie des plus gros consommateurs de plastique en Europe, avec 70 kilos par Français chaque année, c'est-à-dire tout cumulé, 4 800 000 tonnes. Ça n'est vraiment pas glorieux et les efforts du gouvernement n'ont pas suffisamment d'effet. Cela fait 7 ans que la distribution des sacs plastiques jetables est interdite. Mais pas tous les sacs plastiques, et c'est bien le problème.
Oui, ça concerne uniquement les sacs légers, dont l'épaisseur est inférieure à 50 microns. C'est très fin. Les sacs plus épais sont encore autorisés, car on considère qu'ils sont réutilisables, ce qui n'est pas forcément le cas, loin de là. Mais les sacs légers ont beau être interdits, bien on les retrouve encore régulièrement dans les commerces, car les contrôles sont quasi inexistants. Et puis, il y a des sacs plastiques légers qui restent autorisés s'ils sont biosourcés, donc faits avec des matériaux naturels, ou compostable, donc biodégradable. Mais pour Charlotte Soulary de Zero Waste France, eh bien, il faut se méfier des sacs compostables.
Le problème, effectivement, avec les sacs compostables, c'est qu'il faudrait pouvoir le trier de façon séparée, ce qui n'est pas fait. Et ensuite, en général, de composter de façon industrielle, ce qui n'est pas fait non plus. Donc, c'est typiquement une fausse alternative selon nous, puisque on reste sur l'utilisation d'un produit à usage unique.
Des sacs compostables qui ne sont donc pas vraiment compostables.
Oui, et qu'il vaut mieux même éviter de composter dans son jardin. Dans un avis de novembre 2022, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, précise, ouvrez les guillemets, ces matières sont susceptibles de contribuer à une pollution de l'environnement et des aliments cultivés et présentent un risque pour la santé, fermez les guillemets. Un avis partagé par l'Agence de la transition écologique qui recommande également de ne pas composter ces sacs plastiques censés être compostables.
Alors il y a les sacs plastiques, mais il y a aussi les emballages plastiques qu'on retrouve massivement et dans toutes les grandes surfaces.
Alors qu'ils ont été interdits puisque ce sont des plastiques à usage unique. Mais là encore, il y a des exceptions. Charlotte Soulary de Zero Waste France.
Dans le cas des fruits et légumes, dont l'emballage plastique est interdit, on a un décret d'application qui a été poursuivi en justice à 2 reprises par les industriels qui ont obtenu un certain nombre d'exemptions pour des produits qui sont en réalité, de façon très fréquente, vendus en vrac. On se retrouve, en raison de ces exemptions, avec des fruits et des légumes qui continuent d'être vendus dans des emballages en plastique, alors même que ce n'est pas nécessaire. C'est ça qu'il faut changer.
Finalement, il manque une offre pour consommer différemment.
Exactement. Zero Waste France a fait des enquêtes auprès de consommateurs et une grande majorité est prête à se passer de sacs ou d'emballages plastiques à usage unique, conscient bien de l'absurdité de consommer pour quelques minutes du plastique, donc du pétrole, qui participe au réchauffement de la planète. Selon Charlotte Soulary, il faut maintenant que cela se traduise politiquement, avec des interdictions réelles de tous les plastiques à usage unique, et économiquement, avec de vraies alternatives durables à ces emballages qui ne le sont pas, Anne.
Igor Strauss pour notre question d'environnement. On va parler maintenant d'une étape majeure dans une affaire emblématique en France de dénonciation des violences sexuelles qui secoue le cinéma depuis plusieurs mois maintenant. Jacques Doyon et Benoît Jacquot, deux grands réalisateurs français accusés de violences sexuelles par des actrices, ont été placés en garde à vue au début de la semaine. Le premier a vu cette garde à vue levée pour raison médicale hier soir. Il a été relâché sans poursuite. Mais le cinéaste Benoît Jacquot, en revanche, Elisabeth Lequéré, lui... est mise en examen. En tout cas, c'est ce que demande le parquet de Paris.
Oui, on vient de l'apprendre et c'est une mise en examen pour viol sur les actrices Julia Roy et Isilde Lebesco, deux ex-compagnes du cinéaste, aujourd'hui âgées de 77 ans. Isilde Lebesco a connu Benoît Jacquot alors qu'elle en avait 16. C'était sur le tournage du film Sad. En mai dernier, elle a porté plainte pour viol, décrivant le comportement d'un cinéaste qui a profité de sa position pour exercer son emprise sur une toute jeune fille. Alors d'autres comédiennes, je citais Julia Roy, mais aussi Vaïna Giocante ou encore Laurence Cordier, ont fait état de viols, violences et agressions.
Et c'est une autre actrice dont on a beaucoup parlé, Judith Godrèche, qui a déclenché cette enquête en portant plainte, elle aussi, contre Benoît Jacquot.
Alors l'affaire date là de 1986. À l'époque, Judith Godrèche a 14 ans, elle rêve de cinéma. Benoît Jacquot, lui, en a 39. Aujourd'hui, elle a 52 ans, Judith Godrèche. Elle l'accuse d'avoir organisé une entreprise de prédation sur sa personne. Une relation intime qui a duré 6 ans, faite de violences psychologiques et physiques et de rapports sexuels non consentis. Malgré l'ancienneté des faits, en ce qui concerne Judith Godrèche en tout cas, l'objectif de cette mise en examen est notamment de découvrir l'existence de nouvelles victimes pour lesquelles les faits ne seraient pas prescrits.
Elisabeth Lequéré, merci d'écouter RFI. Il est 13h27 à Paris. On se retrouve dans 3 minutes pour notre demi-heure consacrée à l'actualité en Europe. Et d'ici là, on va écouter Flavien Berger et le morceau Gravité avec une pensée pour Clotilde, à qui la chanson devrait rappeler quelques souvenirs.
Je n'attendais que toi. Dans la nuit, sous la lune, je suis sous, tu m'allumes et j'aime bien. Oh chérie, tu sais, bientôt tout va changer. Dans la pluie, j'attendrai que l'amour inverse la gravité. Thank you.
l'invité de Flavien Berger qui sera en concert ce soir à Paris au Trabendo. Il est 13h30 quasiment. On se retrouve dans quelques secondes maintenant sur RFI pour une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe. Et on va beaucoup parler des élections législatives anticipées prévues demain au Royaume-Uni.
Vivez l'UEFA Euro 2024 sur RFI. Frédéric Suteau.
L'équipe de France ne séduit pas depuis le début de l'Euro et pas seulement parce que Kylian Mbappé joue avec le nez cassé. Un huitième de finale gagné sans relief face à la Belgique. 3 buts en 4 matchs. Les Français avancent au ralenti, mais ils sont là en quart de finale. Un choc face au Portugal du vétéran Cristiano Ronaldo. France-Portugal ce vendredi en direct et en intégralité. 19h temps universel sur RFI.